Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre voyage au cœur de 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction. Après le flash, nous partirons bien sûr pour l'Afrique. Rendez-vous aussi avec vos messages. Notre invitée cette semaine est Inam Kashashi. Elle est écrivain, journaliste, auteur d'un nouveau roman qui s'intitule Dispersé chez Gallimard. Bonjour Inam Kashashi.
Bonjour Monsieur Deldic.
On va commencer directement à converser ensemble pour débuter cette édition d'une semaine d'actualité. D'une certaine façon, votre livre Dispersé, Inam Kashashi, c'est le roman de l'Irak?
C'est le roman d'Irak d'avant, parce que l'Irak que j'ai vécu, c'était tellement différent de l'Irak d'aujourd'hui. Ça veut dire, ma génération, on a connu une autre société qui est différente de ce qui se passe maintenant et que les générations d'après ont vécu. Moi, j'ai vécu en Irak avant la guerre, avant les guerres.
Oui, alors et il faut préciser que la première guerre, entre
l'Iran et l'Irak,
l'Irak, et après 88, et ensuite Koweït, la première guerre du Golfe, en 90, 91.
Voilà, ouais. Et il y avait après l'embargo, et après la grande guerre irakienne, avec l'invasion américaine. Alors, dans mes romans, j'essaie de garder la mémoire, de raconter à mes enfants, mes petits-enfants peut-être, l'Irak qui n'était pas seulement un pays de guerre et de conflits, d'armes, de destruction massive. C'était un pays un peu normal, moderne, où moi, comme femme, on a pu faire des études, choisir nos métiers, travailler, voyager. Personne ne nous a imposé un mari contre nos volontés, ce qui est maintenant un peu difficile à croire.
Alors, je vous invite, Inam Kashashi, parce que vous montrez qu'avec un roman, on peut aussi raconter en quelque sorte la réalité des choses. Et Bruno Frappa, dans une critique élogieuse de votre livre, dans le quotidien La Croix, écrit ceci. La façon dont l'écrivaine d'origine irakienne établie à Paris, Inam Kashashi, raconte les événements qui ont perturbé la vie de son peuple depuis les années 50 est exemplaire. Dites-moi.
Ça me fait plaisir. Bon, j'essaie de raconter une histoire à mi-chemin entre la réalité et la fiction.
Il faut préciser, Inam, que c'est l'histoire de plusieurs générations de femmes, mais qui ont un trait commun, elles sont toutes médecins.
Oui,
gynécologue.
La grand-mère, c'est une dame qui s'appelle Wardia, elle est originaire de Mossoul, au nord
Iskandar.
De l'Irak. Et elle a fait ses études à la faculté de médecine de Bagdad et après elle a travaillé au sud de l'Irak, dans une petite ville chiite. La plupart des habitants c'était chiite. Elle était très bien accueillie, malgré qu'elle était chrétienne, non voilée. Et elle a conduisé sa voiture dans les années 55 dans les rues de Diwaniya. Maintenant, si mes enfants regardent les photos de cette dame, quand elle a été à l'université ou en train d'exercer son métier, et je ne crois pas que ça c'est en Irak maintenant. Les étudiantes ont échangé, toute la situation envers les femmes était un peu devenue dure, et surtout envers les minorités.
Alors on va parler de ce roman qui est presque un reportage sur l'Irak de ces dernières décennies, Inam Kashashi, tout au long de cette émission. Mais je vous propose tout de suite de partir pour les États-Unis avec le vrai départ de la course qu'est l'élection présidentielle. Et d'abord les primaires, le choix des candidats par les citoyens, un vrai exercice démocratique. Première étape donc l'Iowa et première surprise côté républicain, correspondance d'Anne-Marie Capobaccio.
Le candidat républicain sera choisi par nous, le peuple.
Les sondages ne l'avaient pas prévu. Ted Cruz remporte les caucus de l'Iowa. Ce candidat à l'extrême droite de l'échiquier politique est en guerre ouverte avec son parti. Le jeune sénateur du Texas a fait campagne et gagné cette élection avec le soutien des chrétiens évangélistes à qui il a promis de revenir aux principes fondateurs des États-Unis. Il inflige à Donald Trump une défaite cuisante, plus blessante pour l'amour propre que pour la suite des primaires. Le milliardaire n'a pas séduit en faisant une campagne en jet privé et en confondant à la messe la quête et le panier de la communion dans lequel il a glissé un gros billet.
Nous sommes deuxième, mais cela ne nous empêchera pas de battre sans souci n'importe quel foutu candidat qu'ils oseront présenter.
Donald Trump et Ted Cruz sont des candidats extrêmes qui méprisent les élus, qu'ils soient ou non républicains, preuve de la crise au sein du parti. Il ne faut pas oublier dans ces résultats le troisième homme, Marco Rubio. Le jeune sénateur de Floride est un pur produit du sérail et il peut réserver des surprises dans la suite des primaires. Si les thèses ultra-conservatrices de Ted Cruz et l'extravagance de Donald Trump lasse les électeurs.
Côté démocrate, Hillary Clinton a gagné de justesse, mais le candidat arrivé en deuxième position est aussi une surprise. Écoutons Bernie Sanders.
Il y a 9 mois, nous sommes venus dans ce bel État, sans avoir d'organisation politique, sans argent, ni de nom, ni de reconnaissance, et nous défions les partis politiques les plus puissants des États-Unis. Political organization in the United States of America.
Suite d'une semaine d'actualité, est-ce que vous connaissez les États-Unis, Nam Kashashi?
Oui, oui.
Je pose la question parce que les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, est très présente dans votre roman.
Oui, et dans mon précédent roman qui a été aussi traduit en français et qui a été sorti sous le titre Si je t'oublie, Bagdad. Édition Liana Levy, c'était un livre consacré à une Irakienne qui est partie en Irak émigrée aux États-Unis à l'âge de 15 ans et à l'âge de 30 ans, elle revient en Irak comme traductrice avec l'armée américaine. Alors c'était mal vu par sa propre famille et il y avait une sorte d'affrontement entre elle et sa grand-mère qui a refusé que sa fille travaille avec l'occupant. J'ai voyagé en Amérique pour préparer ce roman et suis vraiment passé des longs moments avec des immigrés irakiennes qui sont une grande communauté à Détroit, dans l'État de Michigan.
Alors, à une romancière, on peut poser une question personnelle. Vous en voulez aux Américains d'avoir mené cette guerre en 2003 qui a détruit votre pays?
Mais bien sûr, parce que l'invasion américaine nous a promis la démocratie. En fait, il y avait toute une sorte de liquidation et des assassinats contre les intellectuels, contre les journalistes, et persécution contre les femmes et les minorités. Moi, je suis femme, je suis issue de la minorité et je suis journaliste. Alors, si je vis en Irak, je suis triplement visée. Oui, l'Irak de maintenant, c'est un pays, Gallimard a présenté mon livre comme c'est l'histoire d'exil des chrétiens d'Irak.
Alors Gallimard, votre éditeur.
Éditeur. Ouais. Ce n'est pas seulement l'exil des chrétiens d'Irak, c'est l'exil de l'Irak lui-même.
Oui.
L'Irak a exilé de son histoire, de sa géographie, de sa nature vraie. Et à cause de ça, je trouve que maintenant, n'importe quel Irakien, il a tellement convaincu que l'occupation américaine, c'était nocif, c'était pas quelque chose de la vraie démocratie.
Alors l'information en ce qui concerne l'Irak cette semaine, c'est par exemple la construction d'un mur autour de Bagdad, la capitale. J'imagine que ça, c'est une information qui doit vous toucher,
Bien sûr. Se
protéger des attaques terroristes notamment.
Ça me choque, et pas seulement me touche, ça me choque. Parce qu'il y a des murs dans l'intérieur des gens. Il y a des murs communautaires qui ont commencé à se construire depuis des années au sein de la société irakienne. Maintenant, ça ne suffit pas de dire que je suis irakien. Il faut dire je suis kurde, je suis arabe, je suis sunnite, je suis chiite, je suis musulman, je suis chrétien. Toutes sortes de murs, des barrières pour moi entre un seul peuple.
Alors l'actualité internationale cette semaine, Inam Kashashi, c'est aussi la situation dans un autre pays voisin, évidemment c'est la Syrie. Le régime de Bachar el-Assad n'en finit pas de regagner le terrain perdu grâce notamment au soutien de l'aviation russe qui a fait quelques 1000 morts, semble-t-il, depuis son intervention en septembre. Correspondance mercredi de Paul Khalife à Beyrouth.
C'est une victoire majeure acquise en un temps record. 3 jours après le lancement d'une offensive éclair, l'armée gouvernementale syrienne a réalisé 2 objectifs au nord de la ville d'Alep. Elle a brisé le siège imposé depuis 3 ans et demi aux localités de Nobol et Zahra, fidèles au régime, et elle a refermé le chaudron sur les rebelles qui contrôlent la partie est de la ville d'Alep. À coups de manœuvres, de diversions et de contournements, et utilisant une très grande puissance de feu, l'armée syrienne a enfoncé les unes après les autres les lignes des rebelles. Simultanément, les défenseurs de Nobol et Zahra ont opéré une sortie. La jonction entre les deux forces a fermé la boucle, coupant en deux le nord de la province d'Alep. Résultat, la route d'approvisionnement des rebelles d'Alep vers la Turquie a été coupée. Ils ne peuvent plus recevoir ni renforts ni ravitaillement. Autre conséquence de cette offensive, les 5000 combattants aguerris et motivés qui défendaient Nobol et Zahra, encerclés depuis le début du siège, peuvent de nouveau participer à des actions offensives. Cette évolution dans la province d'Alep renforce sensiblement la position des forces du régime, appuyées par le Hezbollah libanais et l'aviation russe, et affaiblit considérablement les rebelles soutenus par la Turquie et l'Arabie saoudite.
La situation à Alep est bien entendu à suivre dans nos journaux. C'est dans ce contexte que les négociations de Genève sur la Syrie, justement, ont été suspendues jusqu'au 25 février prochain. Toufik Ben Aïchouch.
L'annonce de l'émissaire des Nations Unies n'est pas vraiment une surprise. Ce qui devait être des négociations entre le régime et l'opposition n'ont été jusqu'ici que des discussions entre Staffan de Mistura et le régime de Damas d'un côté et entre Staffan de Mistura et l'opposition de l'autre. Difficile dans ces conditions de parler de négociations. D'autant plus que les deux parties ne sont d'accord ni sur qui doit parler, avec qui et au nom de qui. La délégation du régime de Bachar el-Assad tient le négociateur en chef désigné par l'opposition syrienne la semaine dernière en Arabie Saoudite pour un terroriste. Mohamed Allouche, c'est son nom, est affilié au groupe salafiste Jaïch el-Islam. L'opposition de son côté exige avant tout dialogue, que les bombardements cessent en Syrie et qu'un certain nombre de prisonniers soient libérés. Le régime de Damas et ses alliés, et notamment le Hezbollah et la Russie, eux, ne voient pas pourquoi ils donneraient un répit à leur ennemi juré. Staffan de Mistura annonce qu'il ne s'agit en aucun cas d'un échec, mais que l'aide immédiate des pays médiateurs est nécessaire. Autrement dit, il faut du temps pour que les alliés des uns et des autres infléchissent les positions de ceux qui doivent absolument dialoguer.
Syrie, toujours Inam Kachachi, avec la tenue à Londres cette fois d'une conférence des donateurs censée soutenir les 4 millions de réfugiés et les déplacés aussi victimes du conflit en Jordanie notamment, qui appelle à l'aide. Correspondance et reportage d'Angélique Ferrat.
Le roi Abdallah a donné une interview coup de gueule sur la BBC. La Jordanie a ouvert ses frontières. Elle a rejoint la coalition internationale contre l'organisation de l'État islamique. Maintenant, elle a besoin d'aide. Comment voulez-vous qu'on soit un élément de stabilité dans la région si on nous laisse tomber, a-t-il dit. Selon les autorités jordaniennes, la présence des réfugiés coûtera 2,6 milliards de dollars en 2016. Mais le royaume devrait aussi faire un geste. Amman va annoncer à Londres qu'il autorise désormais les réfugiés à travailler. C'était une demande des ONG pour permettre aux Syriens de pouvoir subvenir à leurs besoins. La plupart ne reçoivent que l'aide humanitaire. Andrew Harper, représentant du Haut Commissariat aux réfugiés en Jordanie.
C'est un défi pour nous, surtout quand on connaît le fort taux de chômage en Jordanie. Nous ne voulons pas que les Syriens soient en compétition avec les travailleurs jordaniens. Ce que nous voulons, c'est aider l'économie locale à se développer pour qu'elle puisse absorber l'arrivée d'une nouvelle force de travail. Et c'est là que nous regardons notamment vers l'Europe pour qu'elle investisse plus en Jordanie.
Le petit pays a pratiquement fermé ses frontières. Aujourd'hui, 20 000 Syriens sont bloqués en plein désert. 50 à 100 personnes sont autorisées à entrer en Jordanie chaque jour.
Alors cette réunion de Londres a été un succès, semble-t-il, en tout cas si l'on s'en tient aux promesses de dons, dans la capitale du Royaume-Uni, Muriel Delcroix.
Les organisateurs de cette conférence 2016 ont surpassé leurs objectifs et c'est avec beaucoup d'émotion que le secrétaire général Ban Ki-moon s'est félicité de ce qu'il a appelé un grand succès.
Jamais la communauté internationale n'a récolté autant d'argent en une seule journée et pour une seule crise.
De son côté, l'hôte de la conférence, David Cameron, a précisé que la Turquie, la Jordanie et le Liban s'étaient engagés à assurer la scolarité de tous les enfants réfugiés. Le Premier ministre britannique a aussi promis la création d'ici 2018 de plus d'un million d'emplois pour les réfugiés syriens et les communautés d'accueil dans les pays voisins de la Syrie.
Notre message au peuple de Syrie et de la région est clair. Nous serons à vos côtés pour vous aider aussi longtemps qu'il le faudra, pour assurer la paix en Syrie, pour rétablir la stabilité dans la région et pour donner une chance aux réfugiés syriens de rentrer chez eux, reconstruire leur foyer et leur pays.
David Cameron a néanmoins prévenu que le travail accompli à Londres n'était pas une solution à la crise et a rappelé la nécessité d'une transition politique en Syrie. Le Premier ministre a enfin interpellé directement la Russie. Il demande à Moscou d'user de son influence sur le régime de Bachar el-Assad pour qu'il mette un terme à ses attaques indiscriminées et accepte un cessez-le-feu.
Et rappelons que l'année dernière, seuls 3,3 milliards de dollars ont été récoltés sur les quelques 8 milliards demandés par les Nations Unies. Inam Kachachi, je vous ai senti évidemment atterré en écoutant ces reportages.
Oui, parce que les réfugiés syriens sont comme les réfugiés irakiens. Ce sont des gens qui vivaient assez bien dans leur pays. L'Europe et le monde entier maintenant, ils s'affrontent à une nouvelle sorte d'émigration. Des médecins, des ingénieurs, des gens qui ont leur petit business, qui vivaient bien dans leur maison, avec leur famille, avec une vie paisible. Et maintenant, il se trouve sans rien. Et on écoute qu'il y a des conférences pour ramasser de l'argent pour les Irakiens, pour les Syriens. Et pourtant, l'Irak, c'est un pays pétrolier, avec des milliards de revenus chaque année, qui va dans les poches des corrompus. Et jusqu'à maintenant, il y a des problèmes d'électricité, d'eau potable. Les poubelles sont pas ramassées depuis des années. Et ça me fait mal au cœur d'écouter ça. Parce que maintenant, quand j'imagine que les médecins spécialistes irakiens qui sont au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande et en Amérique sont plus que ceux qui ont resté en Irak. Mmh. Un Irakien qui veut soigner, il est obligé d'aller en Jordanie pour subir une opération puisqu'il ne trouve pas des médecins compétents en Irak. Je suis émue et la situation est tellement, tellement difficile.
Et il faut préciser que l'afflux des réfugiés continue, parce qu'on parlait tout à l'heure, Paul Khalife faisait un point sur l'offensive contre Alep du régime de Damas. Cette offensive, rien qu'elle, a précipité sur les routes des milliers de Syriens qui fuient les combats dans cette zone du pays. Et j'ajoute aussi, par exemple, dans l'actualité de cette semaine, Inam Kachachi, que le Parlement européen a estimé que l'organisation d'État islamique commettait un génocide contre les yézidis et les chrétiens en Syrie et en Irak également.
Oui. Oui, des génocides. Bon, maintenant vous parlez de 1000 victimes dans le bombardement de Alep. Quand il y a 10 000 ou 20 000, on parle de génocide. Quand il y a 100 qui meurent chaque jour, ce n'est pas de l'actualité. Personne ne remarque ça. Et il y avait des périodes où en Irak, il y avait des centaines des victimes chaque jour, mais ça passe son aperçu dans les médias.
Et c'est toujours la même chose, et ça, les romanciers savent, romancières en l'occurrence, en ce qui vous concerne, Inam Kachachi, savent le traduire. Avant, personne, quand on lit votre roman, se demandait si l'Irakien qu'on rencontrait dans la rue était chiite ou sunnite, toutes les communautés vivaient ensemble. Et on se demande, et on a une réponse aussi en lisant votre livre, comment on est arrivé à ce communautarisme, à cette haine?
Parce que les Américains, quand ils ont entré en Irak, ils ont mis la règle du communautarisme. Ça veut dire le conseil de gouvernement, il y avait des chiites, des sunnites et des kurdes, selon des quotas très précis. Et quand j'ai commencé à écrire le roman, et quand elle a été sortie en arabe, il n'y avait pas déjà l'État islamique au Mossoul. Il n'y avait pas cette chasse des chrétiennes et des yézidis et d'autres minorités au nord de l'Irak. Mais on voyait que les choses vont arriver.
Il faut rappeler que Mossoul est considéré par l'État islamique comme leur capitale.
Et comme Raqqa en Syrie et Mossoul en Irak. Ouais.
Donc c'est une situation qui s'est créée uniquement à cause des Américains, selon vous.
L'invasion américaine et les guerres suscitées par les Européennes aussi, les Russes, les Français, les Anglais, d'aller bombarder en Libye, en Syrie, en Irak, ce n'est pas quelque chose de pour les peuples là-bas. C'est une catastrophe. Bon, ils veulent chasser les Daesh de Mossoul, mais comment ils font quand Daesh est dans chaque rue, dans chaque quartier? Ce sont les innocents qui vont perdre leur vie. Ce sont les enfants, les femmes qui vont prendre la chemin de l'exil. Qu'est-ce que vous pensez que quelqu'un des jeunes, des familles qui prennent un bateau qui va couler dans la Méditerranée, mais ils préfèrent mourir
noyer plutôt que vivre cet enfer.
Voilà. C'est une catastrophe humaine et toutes ces conférences, pour moi, c'est d'essayer de réparer l'irréparable.
Inam Kachachi, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde. Il sera peut-être question de la Syrie et de l'Irak. Et on se retrouve dans 3 minutes, un peu plus de 3 minutes. A tout de suite.
A tout de suite.
Merci pour toutes ces informations. Retour maintenant à 7 jours d'actualité avec les reportages de la rédaction et notre invitée, la journaliste et romancière Inam Kachachi, auteur des Dispersés chez Gallimard.
Une semaine d'actualité.
Dans quelques minutes, l'Afrique se présentera à nous. Rendez-vous également avec vos messages. Mais pour le moment, restons en France quelques minutes pour parler d'abord de la visite du président cubain Raúl Castro à Paris. Véronique Guémard.
François Hollande a accueilli Raoul Castro sur le perron de l'Élysée avec une chaleureuse accolade, symbole d'une normalisation entre les deux pays. Le président français a d'abord insisté sur la nécessité de la levée de l'embargo américain sur Cuba.
Cet embargo, ce blocus, doivent être maintenant effacés pour que Cuba prenne pleinement sa place.
Une position saluée par Raoul Castro qui voit la France comme une porte d'entrée vers l'Union européenne.
Nous sommes deux pays avec des réalités historiques, culturelles, géographiques et des systèmes politiques différents. Mais la relation d'amitié, productive et respectueuse que nous avons montre qu'il est possible de se donner des objectifs et des projets communs qui soient bénéfiques à nos nations respectives et à l'humanité tout entière.
Cuba pourra en tout cas compter sur de l'argent frais de la France avec l'effacement de la dette et la mise en place d'un fonds d'investissement franco-cubain.
Grâce à cet effacement de la dette, il peut y avoir un accord encore plus riche entre la France et Cuba. Nous voulons aller plus loin sur un plan bilatéral et nous annulerons progressivement les intérêts de retard à mesure que Cuba remboursera les arriérés.
Signature d'accords commerciaux mais aussi scientifiques, la France veut coopérer avec Cuba face au nouveau virus Zika qui sévit en Amérique latine et dans les Caraïbes. Tous les sujets ont été abordés, a assuré François Hollande, y compris les droits de l'homme. Mais, a-t-il conclu, aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre entre la France et Cuba.
Alors justement, les Cubains qui vivent en France ont suivi cette visite. Certains se demandent même s'ils ne vont pas regagner leur pays avec l'ouverture économique, comme Alexis, qui a rencontré Clara Wright à Paris.
Dans ce café parisien, un serveur attire l'attention avec sa coupe afro et surtout son grand sourire. Alexis est cubain et comme 2800 compatriotes, il a choisi la France comme pays d'adoption. Outre ses divergences avec le régime de Fidel Castro, c'est la misère qu'il a décidé à partir lorsqu'il avait 20 ans. En effet, jusque dans les années 90, Cuba vivait grâce au soutien de l'URSS, malgré l'embargo américain. Mais la chute du régime soviétique a marqué le début d'une période d'extrême pénurie sur l'île. Alors Alexis a rejoint sa mère, une intellectuelle de la Havane, mariée à un Français. Mais aujourd'hui, il veut rentrer, fatigué de sa vie ici.
J'ai essayé de faire du théâtre, j'ai essayé de faire pas mal de choses. Du coup, il faut qu'avec mon travail, j'ai payé mes études, j'ai payé mon loyer. Et en fin de compte, j'ai du mal à m'en sortir en ce que je veux.
Ce qu'il veut, c'est ouvrir son magasin de glace à Cuba. Depuis 2010, en effet, les Cubains ont le droit de créer leur petit commerce.
Le régime, petit à petit, il est en train de changer. Et je pense que dans les années qui viennent, il va laisser des opportunités, ou plus d'opportunités justement aux Cubains pour pouvoir développer les pays. On va voir, je voudrais juste être là et donner mon avis en fait.
Mais Alexis reste lucide.
J'ai changé, j'ai appris à parler français, j'ai appris à parler anglais, j'ai appris beaucoup de choses au niveau de la société, au niveau de la culture occidentale et compagnie. J'ai aussi mon passeport français, donc ça me permettra aussi de pouvoir voyager et compagnie. Donc je ne suis pas dans les mêmes statuts que quand j'étais parti.
Un passeport français comme un gage de liberté pour ce Cubain qui espère enfin retourner chez lui.
Cette visite remarquée de Raoul Castro à Paris a été fort critiquée par les opposants au régime et les défenseurs des droits de l'homme en France ou ailleurs. Écoutez l'un d'entre eux, l'écrivain cubain qui vit à Paris, Jacobo Machover.
Le gouvernement français, le président Hollande en particulier, mais pas seulement lui, son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, légitime de fait la dictature castriste. Et c'est un message très négatif d'appui réel à une dictature. Ils appuient réellement la dictature castriste et pas du tout le peuple cubain. Ils n'ont pas la moindre manifestation de solidarité avec les dissidents ni avec l'opposition en exil. Et c'est quelque chose qui est lamentable pour la France.
Pour vous, le rapprochement États-Unis-Cuba, ça n'a rien changé, ça ne légitime pas du tout cette visite?
Le rapprochement entre les États-Unis et Cuba est un rapprochement vraiment en demi-teinte. Je ne suis pas contre le rétablissement des relations diplomatiques, mais à condition d'avoir quelque chose en échange. Pour qu'il y ait un rapprochement productif, il faut absolument qu'il y ait des gestes en faveur de la liberté. Il n'y a pas le moindre geste de la part du gouvernement cubain.
L'actualité française est aussi en politique. Les discussions, voire les polémiques sur l'état d'urgence et la déchéance de la nationalité pour les auteurs d'actes terroristes, on vous en parle dans nos journaux bien sûr. À ce sujet, notez que selon une information publiée cette semaine par le Figaro, quelques 8250 signalements de radicalisation ont été enregistrés par le ministère de l'Intérieur l'année dernière. Le chiffre a doublé en un an. Un peu d'apaisement maintenant, Inam Kachachi, je ne vous présente pas à vous la voix qui chante en ce moment, il s'agit de la voix de Sœur Marie Kérouz, qui chante Notre Père en araméen, la langue du Christ, donc vous fermiez les yeux et vous étiez soudain, vous méditiez presque.
Oui, c'est la langue que j'ai entendue à la maison quand j'étais enfant, c'est la langue de ma mère, de mon père, de ma famille, l'araméen, on appelle ça le chaldéen maintenant. Oui, il faut chanter, même si les chansons sont tristes. Et à propos de la visite de Raúl Castro à Paris, ce qui m'a vraiment touchée, c'est d'entendre cette chanteuse qui a chanté le Comandat Guevara dans une réception. Mm-hmm. Parce que dans ma génération, il y avait la photo de Guevara dans chaque chambre, dans chaque... tous les adolescents, et c'était... leur héros. Et il est temps que l'embargo cesse comme sorte de punition, parce que l'embargo, ça ne punit pas les dictateurs, ça punit les peuples.
Et ça, en disant ça, vous pensez aussi à l'Irak qui a vécu pendant des années avec l'embargo. Hein.
Voilà. L'embargo n'a pas puni Saddam ni l'entourage de dictateurs. Ça a puni 24 millions d'Irakiens, privés de presque tout.
Alors, vous avez entendu un immigré cubain interrogé par Clara Wright. Vous avez de belles pages dans votre roman sur les immigrés. Je cite un passage, par exemple, de votre roman. Vous écrivez « Les immigrés n'ont pas les aversions des gens délicats. Ils nagent dans la sérénité que leur procure le sentiment de sécurité. Ils veillent en contemplant le plafond et admirent la lampe allumée sans interruption. Ils sont couchés dans une nuit incroyable de quiétude. Ils se remémorent le son des balles perdues et des explosions qui terrorisaient leurs enfants et les faisaient sursauter dans leur sommeil. »
Oui, il fallait des mois et des mois pour apprendre de dormir tranquillement, de regarder l'électricité avec un seul geste de doigt, on peut avoir... vous pensez pas à ça, les gens dans les pays développés, ils pensent pas... Bon, vous vivez dans un endroit tellement moderne et facile, et ce n'est pas le cas dans tous les pays du monde. Et ces immigrés irakiens, vous avez parlé de ce Cubain qui parle... Si un jour il peut revenir dans son pays et avoir sa propre bar ou... Moi, souvent je pense, est-ce qu'un jour je peux retourner en Irak, avoir mon propre journal après 40 ans, 45 ans d'exercer le métier? Ça reste un rêve pour moi et pour d'autres. Et dans moi, le roman dispersé, le problème de ces immigrés, surtout les vieux, qui ont été obligés, poussés à quitter le pays après l'âge de 70 ans, après l'âge de 80 ans, parce qu'ils ont resté seuls, délaissés par les enfants et les petits-enfants qu'ils ont dirigés vers la route de l'exil assez précoce. Bon, leur problème, ce n'est pas de dormir avec un lampe qui marche toujours et sans bombardement, c'est une fois... La vie est terminée. Où est-ce qu'ils vont être enterrés? Parce qu'une femme qui a vécu avec un homme 70 ans, la tête à côté de la tête sur le même oreiller, et elle laisse son mari enterré à Bassora, et elle sera enterrée à Ivry-sur-Seine ou à Thiers. C'est un peu difficile pour eux de comprendre. Et à cause de ça, un de jeunes personnages de roman, il essaie de faire une sorte de cimetière virtuel.
Ça, c'est un passage étonnant du livre. Sur ordinateur, il a une application, en quelque sorte, il invente un cimetière, en fait, et il place chacun à sa place.
Oui,
en
fait, oui. Si je puis dire. Ouais. Il faut un peu de l'humour. On ne peut pas rester tout le temps pleurniché. La vie doit continuer.
Alors, il faut préciser, je ne l'ai pas fait jusqu'ici, que dans votre roman, il y a plein aussi de l'humour, de l'ironie. Il ne faut pas penser que c'est un roman triste, parce que la vie continue.
Les affreuses dures vous apprend à blaguer, à faire des blagues. Avant, les Irakiens, c'était pas un peuple qui aime faire des blagues.
Ah bon?
Ils ont un certain, une attitude sérieuse. Les Égyptiens, c'était le peuple de la blague de prestige, mais maintenant, il y a toutes sortes de blagues. Ils racontent des choses qui parle de leur commentarisme d'une façon tellement rigolo. Il suffit d'ouvrir, d'aller dans des sites irakiens chaque jour, d'ouvrir le email, et il y a une pluie de blagues et des choses rigolos et aussi des choses très graves et tristes, vraiment.
Inam Kachachi, vous qui connaissez bien la France, vous y vivez depuis longtemps. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat autour de la déchéance de nationalité, notamment cette façon de considérer la citoyenneté française?
Ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu parce que moi, je suis d'origine étrangère et même... J'imagine pas qu'un jour un de mes enfants sera radicalisé, mais si un jour mon fils était déchu de sa nationalité française, où est-ce qu'il va? Qu'est-ce qu'il va devenir? Il n'a connu aucun pays autre que la France, et c'est pareil pour ma fille. Je trouve que c'est de condamner des jeunes à cette condamnation de l'extrême. C'est un punition vraiment très très lourde.
Est-ce que la France que vous connaissez depuis longtemps, vous déçoit en ce moment un petit peu à cause de ça ou pas?
Je suis contre le terrorisme. Je comprends très très bien que la France veut garder ses citoyens sains et saufs. Mais c'est une question difficile à répondre. C'est une question difficile à répondre et je ne sais pas comment récupérer ces jeunes au lieu d'aller vers des sites extrémistes et de subir des lavages du cerveau incompréhensibles. Vraiment, il faut beaucoup de travail. Il y a un grand travail devant les politiciens français pour établir un langage commun avec ces jeunes de banlieue. Parce que pour moi, il n'y a pas un langage commun. Il y a une sorte de mur, des barrières. Et ces jeunes ont besoin de quelqu'un qui leur adresse la parole de façon dans une langue où ils comprennent. C'est pas le mépris, c'est pas de les traiter de banlieusards, des beurs, des... Non. Il faut parler avec eux d'une autre façon, convaincant. Et comme ça, c'est la seule façon de pousser l'intégrisme et la radicalisation.
Une semaine d'actualité.
Alors là, nous allons changer de continent totalement. Inam Kachachi, comme à chaque fois dans cette émission à cette heure-ci, nous allons partir pour l'Afrique maintenant, avec d'abord l'annonce de l'allègement du dispositif militaire français en Centrafrique. Adrien de Calan.
Au plus fort du déploiement de Sangaris au printemps 2014, 2400 soldats français étaient présents en Centrafrique. Ils sont aujourd'hui 900 et les effectifs vont être divisés par 3 cette année, a assuré Jean-Yves Le Drian.
L'objectif, c'est que l'opération Sangaris en tant que telle opération militaire s'arrête. Je souhaite que ça soit fait au cours de l'année 2016 et qu'il reste sur le territoire de Centrafrique de petites unités.
Lancée en décembre 2013 pour enrayer la spirale des violences dans le pays, cette intervention n'avait pas vocation à durer, avait dit dès le départ le président François Hollande. Alors depuis un an, Sangaris réduit ses effectifs et passe le relais à la force de l'ONU sur place, la MINUSCA, auprès de qui elle veut jouer un simple rôle d'appui. Elle lui a cédé, par exemple, la quasi-totalité de ses bases en province, à l'exception de 6 buts dans le centre du pays. Jean-Yves Le Drian veut aussi que l'Union européenne s'implique davantage et crée une mission de formation de l'armée centrafricaine sur le modèle du dispositif existant au Mali. Une réunion des ministres européens de la Défense est prévue cette semaine sur le sujet. Se désengager de la Centrafrique est un impératif pour l'armée française. Elle est déjà présente dans tout le Sahel avec l'opération Barkhane, mais aussi en Irak, en Syrie et sur le sol français pour faire face au terrorisme. Elle pourrait aussi être amenée à intervenir militairement en Libye. Le rythme est extrêmement pesant et on serre les dents, a reconnu vendredi le chef d'état-major Pierre de Villiers.
Centrafrique toujours, ou dans la région de Cabo, c'est-à-dire dans le centre-nord du pays, les relations se tendent entre agriculteurs et éleveurs à cause de la présence de groupes armés qui modifient les routes habituelles de la transhumance. Un reportage mardi de notre envoyé spécial, Laura Martel.
Il y a toujours eu des problèmes entre cultivateurs et éleveurs, souligne le représentant des éleveurs de la zone. Il reconnaît toutefois que la crise a désorganisé les comités mixtes qui avaient l'habitude de se réunir pour anticiper et atténuer les conflits. Mais les éleveurs préviennent les agriculteurs de leur passage, affirme-t-il. Faux, rétorque Marcel, habitant d'un village proche de Cabo.
On a fait les récoltes dans des problèmes. Eux, ils viennent, c'est pour manger les tiges de mil. Et nous, ce que nous, on a voulu, c'est les mil. Ça prend longtemps. Il faut couper et après, ça doit faire une semaine pour venir enlever du tige. Mais on n'a pas pu faire une semaine lors de notre récolte. Ils ne nous ont pas prévenus. Ils sont venus brusquement comme ça et on est obligé de le faire.
Plusieurs groupes d'éleveurs circulent dans cette zone. Des centrafricains, mais aussi des nomades venus du Tchad. Ce sont eux, surtout, que les populations pointent du doigt. Ils profiteraient d'une certaine impunité due au fait que ce sont les Axeleka qui contrôlent la région, insinue Jonas.
Nous sommes comme ça dans le village, ils viennent du Tchad. Quand ils arrivent, nous, on n'a rien à faire parce que nous n'avons pas de fusil. Nous sommes des paysans. S'ils veulent saccager des choses, on le criaille et puis c'est tout, ils en vont. Ou bien on court vers leurs frères, les Axeleka de Kétésido. On leur a demandé la sécurité, mais ils ne sont pas venus. Ce sont leurs ententes, on n'en sait rien.
Après plusieurs récoltes manquées, la prochaine campagne agricole s'annonce cruciale, d'autant que la moitié de la population centrafricaine est menacée de famine, selon l'ONU.
Pour réagir à l'actualité, semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique. Merci pour vos messages. Un salut cette semaine à Kobo Maurice. Ce retour sur les sujets d'actualité de la semaine permet un commentaire à froid, écrit-il, et un début d'analyse, nous l'espérons, Kobo Maurice. Au moment, écrit-il, où les questions sécuritaires sont d'actualité, notre appel est que les nations libres et tous les démocrates conjuguent leurs efforts dans une même dynamique afin de venir à bout de ceux qui créent les conditions favorables au terrorisme. Bonjour aussi à Taïrou Diakité qui nous écoute depuis le Mali. Il nous souhaite un excellent week-end en compagnie d'une semaine d'actu. Merci Taïrou. Bonjour à Tierno Ibrahima avec le retour de l'Iran sur la scène internationale, écrit-il. Tout le monde a désormais compris que les sanctions et l'isolement de l'Iran n'étaient pas dans l'intérêt du monde. Je salue, écrit-il toujours, le réchauffement des relations diplomatiques entre la France et l'Iran. Je ne suis pas iranien, dit-il, mais c'est un pays que j'aime beaucoup. Enfin, bonjour à Lamine qui nous écoute à Thiès, au Sénégal.
Sept jours en Afrique.
Et nous allons continuer notre voyage en Afrique et revenir sur le procès de Laurent Gbagbo, l'ancien chef d'État ivoirien, à la Cour pénale internationale à La Haye. Envoyé spécial Florence Maurice, jeudi.
La semaine dernière encore, Fatou Bensouda avait prévenu, pas question avec ce procès de rouvrir le débat sur le véritable vainqueur de l'élection, peine perdue. Car c'est bien deux versions radicalement opposées de la crise qui s'affrontent. D'un côté, la procureure accuse l'ex-président d'avoir plongé la Côte d'Ivoire dans le chaos en refusant de reconnaître sa défaite. De l'autre, les avocats de Laurent Gbagbo continuent de clamer sa victoire et accusent Alassane Ouattara d'avoir pris le pouvoir par la force. Ils en veulent pour preuve cette campagne de recrutement de mercenaires lancée en 2010 au Burkina Faso, puis le transfert des nouvelles recrues dans le nord de la Côte d'Ivoire, où elles auraient été entraînées en vue de l'offensive finale. Une offensive qui aurait été préparée en sous-main par Paris, accusée d'avoir armé les forces pro-Ouattara malgré un embargo des Nations Unies. Et de cela, la procureure ne dit rien, regrette Maître Altit, principal avocat de Laurent Gbagbo. Rien non plus sur les exactions commises par les partisans d'Alassane Ouattara, relève-t-il, pour souligner les failles d'une enquête qui comprend beaucoup trop de silence à son goût.
Inam Kachachi, il nous arrive ici en France, vous le savez, de nous plaindre de la chaleur l'été, enfin pas en ce moment puisque c'est l'hiver. Eh bien ces jours derniers, ce sont les Sénégalais qui se sont plaints à cause de la canicule autour de 30-35 degrés et plus. Reportage de notre correspondant Guillaume Thibault.
Il fait chaud, oui, très chaud. Le climat est mauvais.
Oumar, taximan, prend des coups de chaud en attendant le client. Ndour établit le même constat, mais ne l'explique pas.
Il fait trop chaud.
Pourquoi il fait chaud?
Ah, moi, je ne sais pas, mais cette année-là, c'est trop chaud.
Ah, c'est pas normal.
Monsieur Fay, le voisin de Ndour, a lui un début d'explication.
Peut-être, on dit actuellement, peut-être ce sera, c'est à cause du changement de climat là.
Pour avoir un vrai début de réponse, il faut aller à l'Agence nationale de la météo. Pap Ngor Ndiaye est prévisionniste.
C'est les températures qui dépassent largement les normes saisonnières qu'on a eues. Il fait chaud, c'est vrai, parce qu'il y a un temps ensoleillé. En surface, on a des vents qui nous proviennent d'est. D'est, c'est-à-dire vers le Sahel et le Sahara. Mais en altitude, il fait un peu plus frais et que la nuit s'est ressentie. Parce que la nuit, les vents de secteur est virent pour prendre une composante de secteur nord.
Les vents d'est transportent d'importantes quantités de sable du Sahara. Cette poussière provoque malheureusement rhume et maux de gorge.
Moi-même, je suis victime de ça. Le rhume, sèche de gorge, là tout, avec la poussière.
Un site internet www.airdakar.org permet de suivre la qualité de l'air heure par heure.
Une semaine d'actualité.
Et grâce à Vanessa Rovensky, nous retrouvons Sœur Marie Kérouz. Je vais avoir l'outrecuidance de lire un extrait de votre livre tout en écoutant Sœur Marie Kérouz, Inam Kachachi. Vous écrivez « Un pays incomparable, frappé par la malédiction, est devenu sauvage. Elle prie pour lui, mais le ciel ne répond pas. Son ciel clément et tendre, qui ne l'a jamais déçu auparavant, ne sont-ils pas rassasiés de sang ?» C'est votre héroïne principale, Wardiya Iskandar, qui dit cela. C'est très beau.
Oui, il fallait mettre des noms sur les visages inconnus, sur les visages de peuples qu'on bombarde, qu'on parle d'immigrés de centaines, des milliers. Mais il y a un nom, il y a une vie derrière chaque visage. C'est à cause de ça que j'ai nommé Wardiya, et j'ai nommé tous les personnages de mon roman, Yasmine, Hinda, Gerges, le mari, Taous, tous ces jeunes, tous ces gens, ils ont des visages, ils ont des vies qui a été brisées à cause de l'événement en Irak. Et quand vous étiez en train de parler de la chaleur, la canicule en Afrique, avec un 30 degrés.
Au moins.
Moi, j'ai vécu dans un pays où la température en été, c'était 55. Et le gouvernement n'ose pas dire ça dans la météo à la télé parce que les gens, ils cessent de travailler. Alors, ils disent c'est 45. Et chaque fois que le speakerine annonce 45 degrés, tous les Irakiens, tous les téléspectateurs, ils disent 55. Ils ajoutent de même 10 degrés.
Pour moi, c'était des mensonges sur la météo.
Voilà, ouais. Oui, parce que tout ce qui est dit par l'autorité, c'était fausse pour eux. Ouais. Et pour moi, la différence de la température, ça me met dans un état un peu différent. Quand je m'installe devant mon ordinateur en train d'écrire sur un pays qui a 65 degrés en ombre en été. Et la température derrière ma fenêtre, c'était zéro. C'est ça la contradiction, mais je comprends tout à fait bien que les Africains, ils sentent qu'il y a une canicule en plein hiver ici.
Et ce qui est frappant dans votre roman, que je conseille évidemment, c'est la vitalité en fait de tous les personnages. Quoi qu'il arrive, je répète qu'on part d'une certaine insouciance, il y a quelques décennies de cela, à aujourd'hui. Et il y a, malgré tout, que ce soit l'insouciance ou la période contemporaine, il y a une vitalité incroyable de ces personnages.
Jusqu'à maintenant, donner les Irakiens la possibilité d'avoir un pays normal et stable, ils ont tout à fait la capacité d'aller travailler vivement et de reconstruire leur pays. Mais le problème, qu'il y a une sorte de malédiction, comme j'ai décrit dans mon roman, où on sent que toute cette société internationale refuse que l'Irak sera un pays normal. Un pays normal, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'aller travailler, de vivre, de manger et de faire des projets, des petits projets. Puisque peu personne, depuis 30 ans, n'ose faire des projets en Irak. Ni de penser de voyager, faire des études comme avant, ni de se marier. Les mariages, ça se déroule à 3 heures de l'après-midi. Puisque dans certains quartiers, de quitter la maison ou de faire la fête après 6 heures, c'est très risqué. Alors imaginez un marié et une mariée qui entrent dans leur chambre pour fêter leur nuit de noces à 14h de l'après-midi.
Oui. Merci Inam Kachachi d'avoir donné une touche humaine à une question qui est devenue une question géopolitique. On oublie finalement qu'il y a des femmes et des hommes hein, derrière oui. tout cela, et c'est pourtant le plus important. Votre roman que je conseille vivement s'intitule Dispersé. Il est publié chez Gallimard dans la collection du monde entier, ce qui est une référence. Merci.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idée, le magazine qui interroge ceux qui pensent le monde. Notre invité sera Carlo Strenger. Il est philosophe et psychanalyste. Il a inventé l'idée de mépris civilisé, c'est le titre d'ailleurs de son livre, il nous dira ce que ça veut dire. En gros, c'est un livre, un essai contre les ravages de ce que l'on appelle le politiquement correct. Demain dimanche, 16h10 temps universel, 17h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant, nouveau journal sur RFI.